Sud Radio, Berkov dans tous ses états.
Nous sommes en guerre.
Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe.
Ah, ça va me coûter combien ?
Fidèle aux engagements pris avec les Français, fidèle à la ligne que je me suis fixée jusqu'alors, j'ai à cœur de parler vrai.
Parlons vrai.
Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance.
Mais chacun d'entre vous a son rôle à jouer. Et une bonne partie de cet effort, la chose la plus efficace, c'est de baisser un peu la clim.
Je parle comme ça. Vous taisez, vous écoutez. Ça vous intéresse pas, vous en allez.
L'islamisme radical est en fuite. C'est une très bonne chose.
Oui, oui, on ne s'en lasse pas. La petite musique, la chanson douce de Madame Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui nous enseigne l'art de se laver les mains avec 3 gouttes d'eau. C'est pas beau de se serrer la ceinture, elle qui a négocié pour quelques milliards de doses pour nous guérir, of course. Mais nous allons aussi parler d'autre chose, nous allons parler de ce qui se passe et des bruits de bottes et de la guerre entre l'Azerbaïdjan qui attaque de plus en plus fort, effectivement, l'Arménie. Pourquoi ? Hier, nous avons reçu le représentant de SOS Chrétien d'Orient en Arménie, Corentin Clerc, qui nous a décrit la situation. Aujourd'hui, nous allons le recevoir parce que, non pas par équilibre, mais pour donner la parole à tout le monde, et c'est la moindre des choses, à Zahour Sadik Bayli, juriste, politologue, membre du nouveau conseil d'administration du Congrès des Azerbaïdjanais du Monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est né à Erivan, Zahour Sadik Bayli. L'Azérie. Et il va en parler, et il va surtout parler de ce qui se passe aujourd'hui entre ces deux pays, alors que nous étions déjà dans le choc continu de la guerre Russie-Ukraine. Et puis, nous allons aussi parler de ce drame, de ces terrifiantes femmes iraniennes qui se font massacrer littéralement parce qu'elles ne portent pas le hijab à sa juste place selon la police des mœurs de Téhéran et d'ailleurs. Eh bien, les Iraniennes, eh bien, avec un courage extraordinaire, résistent et font savoir ce qui se passe. Nous allons en parler, bien sûr. Et puis, nous sommes heureux de vous annoncer, grâce à Joe Biden, que la pandémie est finie, mais ici, on n'est pas d'accord du tout en France. Alors, Joe Biden, qui ment, qui dit la vérité, on va le savoir. Et on va parler évidemment des huées et des bravos, de tout ce qui se passe dans ce cher et doux pays. Et enfin, j'ai le plaisir de recevoir Hélène Stroll. Hélène Stroll est philosophe, elle est écrivaine et elle est ancienne inspectrice de l'IGAS, Inspection Générale des Affaires Sociales. Elle est à la retraite et elle va nous parler de ce fameux rapport de l'IGAS sur l'IHU de Marseille pendant la gestion du professeur Didier Raoult. Alors, il paraît que ça a été terrible, qu'il y a eu des malversations, des choses pas possibles qui ont abouti au départ de Didier Raoult. Eh bien, on va en parler avec elle et vous allez voir, comme d'habitude, que la vérité est beaucoup plus complexe que les rapports. À tout de suite.
Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour.
Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant.
Eh oui, Jean Ferrat, eh oui, nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang, et bien sûr, qui veut la guerre ? Ben, qui veut la guerre ? Un certain nombre de gens, soit idéologisés, soit fanatisés, soit extrémisés, soit lobotomisés, et puis les marchands d'armes, ça marche, hein, c'est un bon business, évidemment. Et quelle chanson résiste devant le business ? Aucune. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre pour que les armes s'arrêtent et pour que le peuple arrête d'être massacré pour des causes perdues, gagnées, on ne sait jamais, dans un combat douteux, comme disait John Steinbeck. Alors hier, nous avons reçu Corentin Clerc, qui est le représentant de SOS Chrétien d'Orient en Arménie, et qui nous a fait un tableau de la situation, qui est une situation assez terrible en ce moment, effectivement, une guerre ouverte, il n'y a pas que en Russie-Ukraine, une guerre ouverte entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, et actuellement, l'Azerbaïdjan avance et menace incontestablement un certain nombre de territoires, et apparemment, c'est ce qu'on disait Corentin Clerc, il n'y a que lui, c'est que les combats se déroulent sur le territoire arménien et pas seulement sur le Haut-Karabakh qui est contesté effectivement. Et nous avons avec nous Zahour Sadik Bayli. Bonjour monsieur Sadik Bayli.
Bonjour monsieur Berkov.
Bonjour, vous êtes juriste, vous êtes politologue, vous êtes membre du nouveau conseil d'administration du Congrès des Azerbaïdjanais du Monde Oui, c'est pas ça ?
De l'Europe, pas du monde.
De l'Europe. Et ce n'est pas rien, vous êtes né à Erevan, je rappelle, en 1976. Vous êtes né à Erevan, la capitale de l'Arménie. Alors dites-moi, par rapport à ce qui se passe quand même, l'impression qu'on a, et ce n'est pas seulement une impression, pourquoi effectivement on en arrive à ce stade des hostilités ? Ça s'était calmé il y a quelque temps. Là, il y a un cessez-le-feu, mais tout le monde pense qu'il sera, hélas, de courte durée. Et pourquoi l'Azerbaïdjan a décidé d'aller un peu plus loin sur le territoire arménien ? Qu'est-ce qui se passe ? Dites-nous un peu, là, comment vous voyez la genèse de ce conflit et ce qui se passe aujourd'hui ?
Michel Berkov, d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Bien sûr, il n'y a pas de prévu, vous pouvez me poser toutes les questions. Je voudrais dire que je m'incline devant Sud Radio parce que je fais un courrier à toutes les rédactions françaises, donc je pense que vous avez peut-être entendu parler. Et je dénonçais le blocus de l'Azerbaïdjan par la diaspora arménienne parce que depuis 25 que j'habite en France, c'est toujours la même chose. On n'arrive pas à débattre, on n'est pas invité sur le plateau. Il faut que ça change. Je m'adresse au président de la République qui est garant de liberté d'expression, et sinon on va saisir la CSA. Vous savez, c'est étonnant. On parle aujourd'hui beaucoup de RT France, qui, dont la directrice générale est Madame Simonian arménienne. J'ai été invité 3 fois pendant le conflit de 2020 et j'ai pu débattre notamment avec Monsieur Yegavian et Monsieur Devidjian.
D'accord, Monsieur Sadik Bayli.
Première chose.
Non, bien sûr.
Deuxième chose, il a beaucoup de fausses reçues sur le conflit, tant sur le conflit de 2020, sur le Karabakh, et sur le conflit d'aujourd'hui. Il faut comprendre une chose que moi, je souhaite débattre, je suis prêt à débattre, et notre communauté aussi. Donc moi, je suis prêt à répondre à toutes les questions, mais il faut d'abord reprendre des choses dans l'ordre, changer les idées reçues et changer les autres qui sont les idées fausses. Malheureusement, les Arméniennes, les protagonistes arméniens et ceux qui le soutiennent, chaque fois, sous l'antenne, ils racontent des choses, mais chaque fois, ils travestissent un petit peu la vérité. Donc,
attendez. Il faut pas faire un discours, monsieur. Et vous dites que vous n'êtes pas invité du tout, votre point de vue n'est pas représenté dans les médias français. C'est ça ce que vous êtes tout en train fait. De dire.
Depuis 25 ans. C'est
d'accord.
La même chose.
Bon, alors écoutez, avançons et ne faisons pas les polémiques sur les médias, on peut les faire, mais avançons, expliquez-nous votre version. C'est-à-dire, vous dites actuellement, il y a, ça date de, je crois si j'ai bien compris, dites, mais corrigez-moi si je me trompe, ça date de la fin de l'URSS, tout cela. C'est voilà. Ça.
Donc, à la fin de l'URSS, c'est vrai que les Arméniens présentent toujours l'Azerbaïdjan, toute l'Azerbaïdjan, vous savez, la Grande Arménie, qui peut-être existait l'an 95, moi, avant Jésus-Christ, et les Arméniens prétendent qu'elle était entre 3 mers, et donc, ce qui concerne l'Azerbaïdjan, c'est entre l'embouchure et deux grandes rivières, quoi, l'Arak, ça veut dire c'est moitié de l'Azerbaïdjan, donc c'est leur théorie, chaque fois, ils disent ça, moi, j'appelle ça dinosaurus, le dinosaure d'histoire, même il y a un Arménien qui a été invité chez Soloviev, il a dit qu'après les dinosaures, c'est nous qui avons vécu, mais c'est ridicule. Maintenant, concernant le Karabakh, je suis juriste, je vais aller directement avec les faits. Karabakh, c'est différent. Il a un assise juridique. C'est le traité de Kurekshia de 14 mai 1805 entre le Khan du Karabakh et l'Empire russe, dans laquelle il est marqué que c'était un territoire d'une Khanat azérie. C'est ce qui s'est passé après. Il est rentré dans l'Empire russe. Le Khanat a été supprimé. Le Khan a été tué, ses héritiers aussi. Et ça est devenu gouvernement du Karabakh. La population arménienne, en même temps, commence à augmenter, non seulement au Karabakh, mais dans toutes les régions autour. Aujourd'hui, ce qu'on parle de l'Arménie et donc de Nakhchivan et de Zangezur, c'est les anciens Khanat Azir. Allez, vous allez me poser la question, mais d'où viennent les Arméniens ? Pourquoi ? Vous savez, la vraie Arménie, celle que devait avoir l'Arménie wilsonienne, elle est restée dans la Anatolie orientale. Au début du siècle, les frontières ont été modifiées et c'est pour ça aujourd'hui on a un problème. Sur le Karabakh, pour terminer, pour le conflit,
oui.
Les Arméniens disent souvent que Staline nous a donné le Karabakh. C'est faux. La décision du bureau politique du Parti communiste de 4 juillet 1923, il y avait deux. Le 3 juillet, ils ont donné Karabakh à l'Arménie et 4 juillet, ils ont dit exactement, on a les preuves, laissez le Karabakh en Azerbaïdjan et créer une autonomie. C'était un compromis trop grand. Si vous avez compris, c'est la question des frontières.
Oui, maintenant, alors évidemment, la question des frontières, c'est toujours selon le gré et le caprice du vainqueur et de l'occupant, en l'occurrence la Staline. C'est clair.
Voilà. Et ce qui concerne maintenant le problème d'aujourd'hui, hein, d'abord, je vais rétablir.
Parlons d'aujourd'hui.
Parce que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit Corentin Clerc hier, parce qu'il a aussi, il n'a pas raconté toute la chose. Depuis 2020, depuis 10 novembre 2020, quand l'accord tripartite a été signé, d'accord, cet accord qui a été signé, je vous rappelle, j'ai aussi une petite carte, je vous la ramener pour montrer à tout notre auditoire. Donc, regardez, c'est les cartes. Donc, anciennement, donc de l'Azerbaïdjan et des territoires occupés. Donc, les territoires occupés, ils étaient tous ici. Voyez. Donc, si on prend peut-être dans l'autre sens, voilà. Donc, voilà. Donc, les territoires occupés, c'était tout ici. Donc, quand elle dit que l'Azerbaïdjan a récupéré le Karabakh, c'est pas vrai. C'est les territoires d'Oku. Et c'est l'exécution de 4 résolutions.
Non, mais est-ce que aujourd'hui, je vous pose la question, justement. Je commence au. Est-ce que Corentin Clerc dit que la ligne claire de l'Azerbaïdjan est de récupérer tout le Haut-Karabakh? Vrai ou pas?
Le Haut-Karabakh, c'est différent. Le Haut-Karabakh, c'est le territoire d'Azerbaïdjan. Donc aujourd'hui, j'ai publié un article, malheureusement, Le Monde n'a pas voulu le publier, une tribune, dans laquelle j'ai expliqué le problème du Haut-Karabakh. Le problème du Karabakh, la zone qu'on appelle la zone de responsabilité temporaire des forces de paix russes, elle est suivante. Donc la zone doit être totalement démilitarisée, c'était l'accord de 2020,
oui.
Donc ça
n'a
pas été fait. Et après, moi je suis juriste, et une de mes matières à la fac de droit, c'était le décentralisation. On peut régler d'abord la question de décentralisation. Il y a trois choses à faire. Démilitarisation, régler la question, parce que je suis spécialiste en droit administratif des étrangers, donc la question de ceux qui sont nationaux, ceux qui sont les étrangers, donc régler la police des étrangers, parce que vous savez, il n'y a aucun pays dans le monde, y compris la France, qui accepte sur son territoire les séparatistes. Regardez, aujourd'hui on dit, monsieur le président, je suis tout à fait d'accord avec lui, pas de compromission avec le Donbass et les régions séparatistes, mais pour le Karabakh, pourquoi les politiques françaises disent, ah, le Karabakh c'est différent, c'est les séparatistes. C'est la même chose. C'est les séparatistes qui ont pris les armes, qui ont tué les gens. Et aujourd'hui, c'est très simple. Les séparatistes dorment. Après, sous les Arméniens pacifiques qui veulent vivre en Azerbaïdjan, qui sont nos citoyens, on appliquera les mêmes règles. Ce sera les communes et ce sera décentralisé.
Oui.
Je ne vous fais pas les dessins. Vous connaissez le loi.
Non, je sais. Simplement, je voudrais que vous ne compariez pas avec les séparatistes du Donbass, parce que vous avez vu ce que disait Petro Poroshenko, l'ancien président de l'Ukraine, sur les séparatistes du Donbass. Il faut les traiter comme des sous-hommes. Et il l'a dit. Donc, ne comparons pas.
On ne le traite pas comme les sous-hommes, mais par contre, on n'accepte pas sur notre territoire les personnes avec les mitraillettes, avec les armes, l'arme rouge qui dictent la loi. C'est comme pour tous les pays, c'est comme pour les séparatistes corses, etc.
Ceux
qui sont séparatistes, ceux qui veulent faire la loi, ils n'ont pas bienvenu en Azerbaïdjan. Par contre, les Arméniens pacifiques, il y en a beaucoup qui veulent vivre en Azerbaïdjan, ils auront tous les droits. Le commune sera élu, le préfet sera nommé, et ce sera la même chose que la loi de Gaston Différé. Donc, s'il y a conflit, le préfet envoie à la mairie, le différé préfectoral. S'il a conflit, il l'envoie devant le tribunal administratif. Si la commune persiste violer la loi, il est dissous au Conseil des ministres. C'est
d'accord.
Bon, c'est
alors, c'est d'accord, Monsieur Sadiq Bailly, juste un mot. Pourquoi aujourd'hui, deux choses, pourquoi le conflit s'étend et pourquoi actuellement, et vous le savez, les forces azériques bombardent en territoire, alors là, ce n'est pas le Haut-Karabakh, en territoire arménien reconnu. Par exemple, pourquoi on parle, juste une question posée d'ailleurs par Jean-Christophe Buisson, mais pourquoi, par exemple, des médias, des responsables azerbaïdjanais multiplient les références à la nouvelle république turque de Zangazur-Goïcha, qui correspond au territoire arménien du Siounik? Est-ce que c'est cette zone frontalière attaquée, vous savez, la semaine dernière, est-ce que c'est pour une raison de nouveaux Gazprom, de nouveaux conduits pétroliers ou pas? Dites-moi.
Alors, il y a deux choses. Hier, Corentin Clerc a dit qu'on veut récupérer le couloir de Zangezur et l'Arménie ne veut pas le céder. C'est complètement faux. Dans la cour de 10 novembre 2020, il était prévu l'ouverture de cette communication. C'est une servitude de passage, si vous voulez.
D'accord.
Et il est marqué noir sur blanc que le service fédéral russe de FSB, donc fameuse garde frontière, ils sont responsables de la sécurité. L'Arménie, depuis 2 ans, elle n'a pas exécuté ça. Ce qui se passe maintenant dans cette... Il y a 4 régions qui sont concernées. Il y a Kalbajar, il y a la Chine, il y a Zangela. Mais aussi, il y a Dashkessan. Vous savez, les combats, ils ont eu à Dashkessan. C'est à l'intérieur de l'Azerbaïdjan, près du Karabakh. Qu'est-ce qui se passe? Depuis 2 ans, l'Arménie laisse traîner les pieds. Je salue Charles Michel qui a avancé considérablement des négociations. Le 31 août, il a eu rencontré à Bruxelles. Et comme par hasard, l'Arménie a tout accepté. L'Azerbaïdjan, il a mis 5 principes. Hein, vous savez, inviolabilité des frontières, intégrité territoriale, non-ingérence, reconnaissance mutuelle de l'intégrité, abandon des revendications territoriales. Ma position et les positions d'Azerbaïdjan qu'on n'a pas de revendication territoriale envers l'Arménie, qu'on est pour l'intégrité territoriale de chaque État, y compris l'Azerbaïdjan, y compris l'Arménie. Maintenant, ce qui se passe avec la frontière. Depuis 2 ans, l'Arménie envoie donc les saboteurs par la nuit, parce que la frontière est très vaste et dans les montagnes, et on s'est aperçu avec le temps qu'ils posent nouvelles mines, nouvelles bombes, qu'ils explosent. On a 240 personnes, M. Berkov, qui sont morts depuis 2020. C'est scandaleux. Il y a même les journalistes qui ont sauté sur une mine. Alors, la patience de l'Azerbaïdjan est arrivée à son terme et on a commencé à les déloger. Donc les Arméniens, on les connaît. Quand on commence à appliquer la force, après, ils créent au scandale, ils créent au secours. Ce qui se passe aujourd'hui, que à cause de cette dernière intrusion des saboteurs qui est des paramilitaires qu'on a découvert, qu'on a attrapé quelques-unes, il y a eu des combats pour les déloger et l'armée azerbaïdjanaise a pris les auteurs sous la frontière conditionnelle. Je vous explique dans l'instant pourquoi elle est conditionnelle. D'accord. Pour les déloger. Alors, la question des frontières, c'est principal, vous avez compris, mais il y a deux frontières avec l'Arménie. Il y a la frontière entre Nakhchivan et l'Azerbaïdjan, l'Arménie, c'est une frontière statutaire, parce qu'elle est régie par le traité du Kars du 13 octobre 2021, et elle est très facile à appliquer. Vous prenez le traité du Kars, l'annexe, tout est marqué.
D'accord, attendez, juste un moment, il faudra bien qu'à un moment donné parler, mais je voudrais savoir, et ça ce n'est pas l'Azerbaïdjan qui l'a dit, mais je voudrais avoir votre sentiment sur le député turc, et ça je l'ai entendu, et nous avons entendu, un député turc a dit, attention, il faut faire attention, qu'il n'exagère pas les Arméniens, et il a déclaré, texto, la nation turque a le pouvoir d'effacer l'Arménie de l'histoire et de la géographie. On se rappelle tous ce qui s'est passé en 1915. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre réaction quand vous entendez un député turc dire ça?
Alors, ça n'engage que lui, la première chose. Deuxième chose, vous savez, sur le génocide arménien, sur la question arménienne, je travaille beaucoup. J'ai dit dans mon intervention chez RT France face à François Devedjian que la tragédie arménienne de siècle dernier et de ce siècle, elle est due aux élites arméniennes. Alors moi, je vous donnais ma version des faits.
Vous allez un peu fort.
Non, mais Monsieur Berkov,
vous dites que le génocide arménien de 1915 a été, c'est la faute des Arméniens, c'est ça que vous dites?
Le génocide arménien, c'est la faute de la politique qui a été mise en place à l'époque par l'entente, parce que si vous voulez, les Arméniens, ils avaient un deal avec les pays d'entente pour faire couler l'Empire ottoman et devaient récupérer vaste Arménie. On comprend ce sentiment, mais sauf que c'était une empire à l'époque, comme disait Jacques Chirac, et l'empire s'est retourné contre eux. Mais mon problème n'est pas là. Ça concerne pas l'Azerbaïdjan. Les Arméniens mettent toujours ça sur l'Azerbaïdjan. Ça concerne l'Azerbaïdjan dans le sens qu'après cet échec, la vague des nettoyages ethniques de l'Anatolie orientale, elle est jusqu'à Bakou. À Bakou, il y a 50 000 Azéris qui sont morts. Au Zangezur, il y a toute la population azérique qui a été exterminée par les Arméniens. Vous savez, il y a 3 millions de musulmans qui sont péris dans ces années dans l'Anatolie orientale. On n'en parle pas. Alors, ma position, et ça n'engage que moi, il y a beaucoup qui pensent comme moi, s'il y a génocide arménien, alors il y a génocide des Azéris, les Kurdes et les Turcs. Donc, c'est un débat historique.
Moi, je crois que vous employez le génocide vraiment de façon extrêmement légère, monsieur. Excusez-moi de vous dire. Vous ne pouvez pas mettre en. Il y a eu 1,5 million d'Arméniens morts, massacrés par les Turcs. Pardon. Vous savez, il ne faut pas.
C'est un débat historique.
C'est un débat historique, je suis d'accord. Revenons au débat, je suis d'accord, mais moi, je crois qu'il faut vraiment faire attention et je vous demande de faire attention aux mots que vous employez, très sincèrement. Après, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, parlons du débat d'aujourd'hui. Vous me dites, les médias, je ne comprends pas. Parce que le régime azéri invite énormément de journalistes français. Je connais énormément de journalistes français. Moi, je n'ai pas été, pas parce que j'ai refusé, mais j'ai eu l'occasion. Mais beaucoup de journalistes français sont invités de façon régulière et somptueusement par le régime d'Azerbaïdjan. Comment ça se fait que vous n'avez pas accès aux médias? Je ne comprends pas.
Ça, c'est la question qu'il faut poser aux médias français, il faut poser au pouvoir public pourquoi on n'est pas invité. Parce que moi, je pense que, comme je dis, que le lobby arménien, la diaspora arménienne en France, il a pris en otage tout l'establishment. Sur le génocide, vous pouvez permettre que je termine. Je dis pas qu'il n'y a eu pas de génocide arménien, mais je dis que c'est un débat historique. J'en veux beaucoup aux Turcs parce que pendant de tout le XXe siècle, ils se sont tus. Et c'est moi, une des premières qui a été dit, il faut ouvrir toutes les archives. Vous savez, c'est la livre sur mon... Je trouve que je peux vous le montrer.
Bon, écoutez, on va pas faire l'émission là-dessus. Je comprends.
C'est les archives turques. vous savez, et il en a maintenant 1 million de documents qui sont publiés.
Donc, d'accord.
Il fallait faire ça depuis longtemps.
D'accord. En tout cas, s'ils ne l'ont pas fait, c'est pas par hasard, parce que eux, c'est eux, c'est pas vous, c'est eux qui auraient dû se défendre là-dessus, et ils ne l'ont jamais nié. Écoutez, on va continuer, on fera d'autres débats là-dessus, là, je peux pas vous garder plus longtemps, on verra bien. Moi, ce que je souhaite vraiment, que ça s'arrête, et comme tout le monde, et que vous n'êtes pas en train de vous massacrer pour, au fond, et je sais, il y a aussi un côté économique, un côté pétrolier, un côté gaz dans tout ça, on le sait très 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 bien, et chacun joue aussi, et malheureusement, il y a le business derrière. Merci en tout cas pour votre témoignage.
Je vous donne la parole.
Oui, et bien écoutez, et essayons, et bien j'espère que vous allez arriver à la paix. Merci.
Sud Radio, André Bercoff. Bercoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio.
Très très belle chanson, très belle chanson de Gougouche. Gougouche, une de très 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 grande chanteuse iranienne. Une chanson sur un amour interdit entre deux femmes en Iran. Et beaucoup de choses sont interdites, comme vous le savez, en Iran. Hein. On continue ici à ce pardon d'expression vulgaire, mais je vais l'employer. On continue à se pignoler sur un certain nombre de problèmes ici en France, alors qu'on ne voit pas que des gens meurent, sont massacrés en Iran, notamment la militante de 22 ans, Mahsa Amini. Elle a été arrêtée à Téhéran pour non-port du voile. Okay, vous savez ce qui est arrivé? On l'a arrêtée, eh bien... Quelques jours après, elle est morte dans un hôpital de Téhéran, samedi dernier, après avoir arrêté, roué de coups, tabassé à mort par la police des mœurs dans la capitale iranienne. Tabassé à mort. Pourquoi ? Motif de ce traitement, très simple, une infraction au code vestimentaire en figure dans la République islamique. En l'occurrence, l'obligation du port du voile couvrant les cheveux. Je vous rappelle que cette obligation du port du voile en Iran est obligatoire, et comme on dit, à partir de 7 ans. 7 ans. Voilà, depuis l'instauration de l'État islamique. Et alors, qu'ont fait ces femmes iraniennes, en tout cas quelques-unes, en tout cas des dizaines? Eh bien, elles ont manifesté en enlevant eux-mêmes leur voile, elles-mêmes, et en se coupant les cheveux. On a tous vu sur les réseaux sociaux ces femmes en train de se couper les cheveux, en train d'enlever leur voile. Et ça, c'est ce que j'appelle véritablement les femmes résistantes. C'est pas les petits bavassages et salivations sur les petits écrans. C'est elles y vont et elles savent ce qu'elles risquent. Parce que en Iran, on sait ce qu'on risque quand on enlève son voile et quand on commence à se couper les cheveux. Alors il y a des manifestations qui continuent aujourd'hui dans la ville natale de Saqqez. La province du Kurdistan iranien, dans l'ouest du pays, beaucoup de femmes présentes, et on sait que les Kurdes, elles ont pris position depuis très 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 longtemps, et elles se battent, elles, pour notamment en Irak et en Syrie, on le sait. Mais aujourd'hui, eh bien, voilà, des manifestations partout, la police ouvre le feu sur les manifestants, ils ont blessé 12 personnes. Alors, que dit le pouvoir? Oh ben non, on n'y est pour rien, non, c'est des problèmes cardiaques. La jeune fille a eu un problème cardiaque à 22 ans. Voilà, les parents, évidemment, disent absolument pas. Et voilà, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et j'aimerais entendre un peu plus un certain nombre de néo-archéo-féministes. Quand il se passe ça en Iran, on ne les entend pas beaucoup. Hélas, on aimerait vraiment qu'elle se dévoile elle-même. Je parle mentalement et neuronalement.
Et restez avec nous parce que aujourd'hui, on reçoit une invitée assez spéciale. Il s'agit d'Hélène Stroll. Elle est ancienne inspectrice générale des affaires sociales et elle vient aujourd'hui trancher pour nous qui a raison, l'Institut, donc qui condamne l'IHU de Marseille sous la présidence de Didier Raoult ou bien Didier Raoult. À tout de suite sur Sud Radio.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Bercoff dans tous ses états.
Oui, dans tous mes états, parce que notre vie va changer. Enfin, la révélation suprême du président des États-Unis, Joe Robinette Biden.
Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Les perles du jour.
Le premier qui dit la vérité, il doit... premier qui dit la vérité, il doit être.
Eh oui, Guy Béard, eh oui, oui, et c'est clair. Hein. Et il y en a qui ont été exécutés, il y en a beaucoup qui ont été exécutés. Mais celui-là ne sera pas exécuté, mais le problème, qui dit la vérité? C'est ça le problème. Qui dit la vérité? Par exemple, hier, sur 60 Minutes, 60 Minutes, l'émission de CBS la plus importante de la télévision américaine. Et voici ce que disait, pour la première interview depuis 7 mois, première interview depuis 7 mois du président le plus lucide que nous avons eu dans l'histoire, Joe Robinette Biden. Écoutez.
The pandemic is over. We still have a problem with COVID. We're still doing a lot of work on it. But the pandemic is over. If you notice, no one's wearing masks. Everybody seems to be in pretty good shape. And so I think it's changing. And I think this is a perfect example of it.
Voilà. La pandémie est terminée. Eh oui, terminée. Vous avez marqué, on a encore des petits problèmes à régler avec le Covid, mais la pandémie est terminée. Alléluia, joie, joie, pleurs de joie, on s'agenouille, on remercie, voilà, ceux, les croyants remercient Dieu, les autres remercient la science, les troisièmes remercient le hasard. Mais, chez nous en France, eh ben, c'est pas le même son de cloche. Vraiment, écoutez le ministre de la Santé, le monsieur François Braun, écoutez.
Il est trop tôt pour dire que c'est déjà le début de la 8e vague. Par contre, vous avez raison, nous constatons depuis une semaine, 10 jours, une reprise des indicateurs plutôt à la hausse.
Alors, qui ment et qui dit la vérité? Il y en a un qui ment. Il y en a un qui ment, c'est clair. Alors, où il dit effectivement, nous ne sommes pas sûrs de la 8e vague, il est parfait l'octobre, mais les indicateurs sont à la hausse. Alors, est-ce l'Américain qui nous raconte des carabistouilles ou est-ce le Français? Écoutez, auditeurs de Sud Radio, on vous tiendra au courant, promis.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
La trahison, c'est quelque chose qui te bloque comme une poisson, qui te met une haine dans le sang qui te tue comme un poisson. Les journalistes veulent seulement nous montrer ce qu'ils veulent montrer. Il y a trop de
section d'assaut, la trahison. Eh oui, la trahison, c'est quand le peuple s'exprime et qu'on ne l'en tient pas compte. Petit exemple, on ne va pas reparler de 2005 et du référendum sur la Constitution européenne. On sait comment on s'est assis dessus, comment les princes qui nous gouvernent se sont assis dessus. Mais voilà, en octobre 2018, place Saint-Michel, au Sable d'Olonne, devant l'église Saint-Michel, a été installée évidemment la statue de qui? Eh ben, de Saint-Michel, bien sûr. Mais on n'en veut plus. Parce que la juridiction administrative d'appel de Nantes a dit que l'installation d'un emblème religieux sur un emplacement public est interdite par l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation de l'Église et de l'État. Donc c'est contraire à la laïcité et l'association La Libre Pensée, intéressant La Libre Pensée, a demandé voilà, qu'on déboulonne la statue. Le maire de la commune, qui a fait quelque chose d'assez simple, qui a demandé un référendum. Il a dit, écoutez, on va consulter les habitants des Sables d'Olonne. Après tout, c'est à eux qui payent leurs impôts locaux, et à de décider. Eh bien, il a fait une votation en mars dernier, le maire. Une très grande majorité des votants, savez-vous combien? 94,51% des votants s'est dit favorable au maintien de la statue. Eh bien, malgré ça, elle va être finalement déboulonné. Vous imaginez un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que, en fait, tout se passe comme si on veut supprimer. Alors, on va supprimer quoi? Toutes les croix des villages, tout ça. Ça n'a rien à faire. C'est 1500 ans. C'est la tradition. Alors, on va démolir les cathédrales pendant que vous y êtes. Mais c'est quoi? On veut supprimer tout ce qui est la permanence, le passé de ce qu'on appelle encore la France. Pour combien de temps? Voilà. C'est-à-dire que la population, dans sa majorité, mais écrasante, se prononce pour le maintien de la statue, eh ben non, parce que quelques bons chevelus de la libre pensée, alors vraiment pauvre libre et pauvre pensée, veulent le contraire, eh ben on ne la garde pas. Voilà, c'est intéressant, c'est simplement, ça s'appelle le progrès, je ne sais pas si c'est le progrès woke, ou le progrès weak, ou le progrès genre, mais voilà. Oui, peut-être que Saint-Michel, au fond, c'est pas le bon genre, c'est vrai, c'est le mauvais genre.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
très très belle chanson sur les migrants, sur les immigrés. On m'a tendu la main, je suis en vie. Et évidemment, qui n'est pas pour l'asile quand quelqu'un est menacé? Mais qui n'est pas aussi pour quelque chose qui s'appelle un certain contrôle de l'immigration? Eh bien, pas du tout. Pas du tout les milliardaires et millionnaires de Martha's Vineyard. Alors vous allez me dire, où est-ce que c'est Martha's Vineyard? C'est une île dans le près du Massachusetts, vous voyez, aux États-Unis. Et c'est une île qui n'abrite, si vous n'avez pas $1 million au moins, ou 5 millions, ou 1 milliard, oubliez Martha's Vineyard. Il n'y a que des richissimes, en général démocrates, qui sont là. Et il y avait partout, partout, accueillons les migrants, accueillons tout le monde, oui, à All Black Lives Matter et tout ça, très, 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 très bien. Eh bien, à force de dire, oui, oui, ces salauds de républicains, ces salauds de Texans et de Floride qui ne veulent pas des migrants, qui refoulent les Chiliens, qui refoulent les Vénézuéliens, les Mexicains, salauds de vraiment d'inhumains. Eh bien, Ron DeSantis, le gouverneur républicain de Floride, a pris trois avions, il a loué trois avions remplis de migrants vénézuéliens et il les a débarqués à Martha's Vineyard. Et si ces milliardaires étaient cohérents, ils devraient les recevoir, évidemment, avec les honneurs, les abriter dans leur résidence secondaire, dans leur sublime villa de 25 chambres avec piscine. Et voilà, et ça aurait été très bien, on leur aurait dit bravo. Eh bien, vous savez ce qu'ils ont fait, ces milliardaires qui sont tellement humanistes, tellement ouverts, ils ont appelé la police. Et en 48 heures, les migrants qui avaient débarqué ont été refoulés, rembarqués manu militari. C'est pas beau, ça. C'est pas beau. Alors donc, si je comprends bien, faites ce que je dis et surtout pas ce que je fais. Donc, il faudrait traiter les migrants comme les milliardaires démocrates ou les millionnaires démocrates de Martha's Vineyard. Voilà, on en est là. Ça s'appelle Tartuffe is Alive and Living in Massachusetts.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face.
Et pour le face-à-face du jour, nous recevons Hélène Stroll. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes inspectrice générale des affaires sociales à la retraite. Et vous êtes également l'auteur d'une tribune que vous avez publiée le 8 septembre dans le courrier du Stratège sur le rapport rendu par l'IGAS, donc l'inspection générale des affaires sociales, sur l'IHU de Marseille sous la direction de Didier Raoult.
Alors justement, bonjour Hélène Stroll.
Bonjour André. Bonjour.
J'ai lu, effectivement, alors on a tous vu l'enquête de l'IGAS, enfin tous vu, on a lu ça, et donc ils ont fait un rapport, mais alors extrêmement à la hache, au bulldozer, sur la gestion presque infamante de Didier Raoult pour l'Institut Hospital, à la tête de l'Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection. Il ne l'est plus, hein, on le sait depuis un an. Alors, il y a deux semaines, même pas, donc enquête conjointe de l'Inspection Générale des Affaires Sociales, l'IGAS, et de l'Inspection Générale de l'Éducation, du Sport et de la Recherche, IGESR. Un rapport apparemment accablant, une liste énorme de pratiques médicales et scientifiques déviantes à l'IHU de Marseille, infection, graves dérives managériales et financières, et ce que dit François Braun lui-même, hein, plusieurs éléments de ce rapport sont susceptibles de constituer des délits ou des manquements graves à la réglementation en matière de santé ou de recherche, résume François Braun, ministre de la Santé, et Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et je termine, qui ont saisi le procureur de la République au titre de l'article, etc., du Code pénal. Code pénal, donc, voilà, plainte déposée, etc. Et donc, Didier Raoult, ce pelé, ce galeux, d'où nous vient tout le mal. Alors, Hélène Stroll, j'ai lu effectivement avec Alaa Oukili votre chronique là-dessus. Et en fait, vous avez été à l'IGAS pendant très longtemps, vous êtes toujours à la retraite. Alors, qu'est-ce que vous dites de ce rapport? Je crois que vous l'avez lu dans son entier.
Je l'ai lu en entier. Je pense pas que beaucoup de gens l'aient lu en entier. Et ce qui est frappant, c'est qu'au fond, on reproche pas grand-chose. Enfin. Quand on fait un rapport de l'IGAS et qu'on est face à des faits qui peuvent être qualifiés pénalement, c'est l'inspection elle-même, c'est l'inspecteur lui-même qui qui applique l'article 40 et qui transmet au procureur.
Hein. Oui, moi, je c'est l'inspecteur lui-même.
Oui, oui, moi je l'ai fait une fois dans ma carrière, oui. Parce qu'un directeur de foyer faisait travailler chez lui le week-end des enfants, des mineurs isolés, qui payaient 1 euro la journée.
D'accord.
Sur l'argent de la boîte, en plus. Ouais, voilà. Ouais. Bon. Le procureur, en plus, ça l'a pas intéressé, c'était pas une belle affaire, donc il l'a même pas suivi. Mais alors, ce que je veux dire, oui. C'est, ils n'ont pas, les trois inspecteurs de l'IGAS, hein, je me prononce pas sur l'inspection d'éducation nationale, moi c'est pas mon,
bien sûr,
c'est pas ma
non,
compétence.
Mais parlons de
l'IGAS,
oui.
Ouais. Ils l'ont pas fait eux-mêmes, hein. Donc je veux dire, ils n'avaient pas de quoi.
Ah, ils n'ont pas fait eux-mêmes cette
enquête.
Non,
ils ont fait l'enquête, mais ils n'ont pas transmis au procureur.
D'accord.
C'est le ministre. Ce sont les ministres qui ont transmis au procureur.
D'accord.
À mon avis, il n'y a pas dans le rapport d'éléments susceptibles d'être qualifiés pénalement. Hein. Les graves dérives financières, je veux dire. Raoult le dit tout le temps, il est à Marseille, il y a des millions et des millions de déficits à l'hôpital de Marseille depuis toujours. Il leur reste, je crois, 8 millions. Effectivement, les dépenses ont augmenté pendant la crise Covid, heureusement, enfin je veux dire, c'était fait pour ça. Et à terme, la subvention de la publique risque de baisser, parce qu'on fait toujours ça en France. On donne une subvention au début, puis après on la fait baisser, débrouillez-vous sans l'État. Mais franchement, la situation financière, elle est nickel. Et en plus, ils parlent de comptes peut-être pas sincères. Je veux dire, ils ont un expert comptable, comme tout le monde, ils ont un commissaire aux comptes.
Alors, on va en continuer à parler longuement, effectivement, parce que je voudrais comprendre comment se font les rapports, justement, Hélène Stroll, après cette petite pause. À tout de suite.
On revient tout de suite avec Hélène Stroll, inspectrice générale des affaires sociales à la retraite, pour savoir qui dit vrai et qui dit faux, en fait, l'IHU de Marseille, sous la direction de Didier Raoult, ou bien l'IGAS. À tout de suite sur Sud Radio.
Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et je ne suis pas le seul, je suis avec Hélène Stroll, écrivain et inspectrice générale des affaires sociales à la retraite. Hélène Stroll, vous avez été 30 ans à l'IGAS, hein, c'est bien
oui,
ça?
Oui, tout à fait, oui, j'ai fait un petit tour à la Cour des comptes, et puis sinon j'ai été tout le temps à l'IGAS.
Alors rappelez-nous, c'est très important, je crois, pour les Sud Radio, tout le monde a entendu parler de l'IGAS, mais l'IGAS est indépendant, c'est son rôle exactement c'est quoi?
Alors, l'IGAS, c'est le corps d'inspection supérieur, comme on dit, de tout le secteur social, travail, emploi, hôpitaux, etc., qui fait des missions de contrôle, d'audit et d'études à la demande des ministres. Donc tous les ministres peuvent qui ont du social peuvent la solliciter.
C'est eux qui doivent demander des enquêtes.
Oui, ils les demandent. L'IGAS a un programme autonome, mais voilà.
D'accord.
Et donc effectivement, l'IGAS fait la mission que lui demande de faire un ministre, mais ensuite, normalement, elle est totalement indépendante dans ses méthodes et dans la publication de son rapport. C'est-à-dire qu'il y a une série de filtres au sein de l'IGAS pour que le rapport soit de qualité. Enfin, il y avait, quand moi j'y étais, en tout cas, pour que le rapport soit de qualité. C'est-à-dire qu'on n'avance rien sans le prouver. Et ensuite, le rapport est rendu public.
Mais alors justement, Hélène Stroll, vous avez intitulé votre chronique « Rapport IHU à charge de Raoult, des corps d'inspection aux ordres ».
Oui, parce que je pense que c'est ce qui s'est passé dans ce rapport. C'est pas un contrôle ou un audit de l'établissement IHU dans lequel on aurait dû prendre les différentes, l'organisation, le management, l'enseignement, les publications, le soin, etc. À chaque fois voir quels étaient les objectifs qui lui étaient fixés et à l'aide d'un certain nombre d'indicateurs, voir, voilà. C'est un rapport dans lequel il n'y a rien sur les résultats. Rien. Il y a, vous connaissez quand même assez bien l'IHUB. Vous voyez que tout le long du Covid, ils ont communiqué. Ils ont donné des statistiques en quantité.
Énorme, oui.
La seule chose à faire, c'était de dire, ou bien ces statistiques sont fausses, prouvez-le. Hein, prouvez-le.
Bien sûr.
Ou bien, il faut en tenir compte. Ils ont le meilleur taux de, ils ont le taux de mortalité le plus faible à part une autre clinique en France. Ils ont reçu des gens, ils les ont testés dans la journée quand à Paris il fallait attendre 3 semaines, etc., etc. Alors qu'est-ce qu'on leur reproche ? On leur reproche d'avoir utilisé l'hydroxychloroquine en traitement précoce.
Ah, c'est ça le
c'est ça c'est le ça. C'est ça le gros reproche. Et alors là encore, c'est très curieux parce que dans le rapport. La seule chose qui est dit, c'est contraire au décret. Vous le connaissez, ce décret. Vous savez que c'est le décret qu'a pris Véran après le Lancet Gate.
Absolument. Hein? Et rappelons que le Lancet Gate avait annoncé un rapport qui s'est révélé bidon. Ils l'ont admis eux-mêmes. Un rapport faux.
Un rapport Lancet, qui disait qu'il y avait 10% de, je crois, de mortalité.
C'est ça. Sur ce traitement.
Le rapport est totalement bidon. Très clairement, il a été commandité par des gens qui avaient intérêt à ce qu'on n'utilise pas cette molécule très bon marché et qu'on aille plutôt dans la course aux vaccins très chers. Ça, c'est évident. Mais si je fais une inspection IGAS et que je reproche aux gens d'avoir utilisé l'hydroxychloroquine, je vais dire que je veux savoir est-ce qu'il y a eu des effets indésirables? Est-ce qu'il y a des gens qui sont morts de l'hydroxychloroquine? Il n'y en a eu aucun. Raoult dit qu'il n'y en a eu aucun. Hein, il y a des gens qui sont morts, bien sûr, du Covid. Mais pas de l'hydroxychloroquine.
Et beaucoup de gens, pardon, Hélène Stroll, qui sont morts du Covid, mais en fait, qui sont morts avec le Covid. Pas du Covid.
Voilà.
Il y avait des comorbidités.
Et donc, ils vont même jusqu'à dire dans le rapport que, vous comprenez, on demande aux gens de l'IHU, aux médecins, à tous les médecins de l'IHU, d'appliquer des protocoles sans réfléchir. Vous c'est ce qu'ils disent.
Sans réfléchir.
Alors que les protocoles y sont. Non, c'est véritablement parce que ça fonctionne très très bien l'IHU. On reçoit les gens, on leur dit, on regarde un certain nombre de constantes médicales, etc. Et puis ensuite on décide d'un traitement. On l'hospitalise, on l'hospitalise pas. On donne tel traitement. Est-ce que on peut donner l'hydroxychloroquine si les gens sont déjà sous tel et tel médicament? On peut pas, etc. C'est nickel. Je veux dire, ou bien ils prouvent que ça ne l'est pas, ou bien ils se taisent. Sur les histoires de management, c'est la même chose. Raoult est décrit comme une espèce de tyran. Alors, pas seulement Raoult, ils en ont après Raoult, après Parola, après Chabrière aussi, après Drancourt. Ouais. Et alors, la première chose qu'il dit, l'équipe de direction est très soudée. Je trouve que c'est plutôt bien.
C'est plutôt une bonne chose.
Et tout le long, c'est comme ça. Et ensuite, c'est le management est terrible, il y a un risque de harcèlement moral, etc. Et ça, ce sont les témoignages anonymes que...
Tous anonymes, d'ailleurs.
Ils ont
peur, quoi, des représailles.
Alors, ils disent que les gens avaient peur des représailles. Je veux dire, c'est pas vrai. Moi, j'ai fait des tas de contrôles. On voit les gens. D'abord, on voit les gens, mais on leur dit bien qu'on va confronter ce qu'ils disent à ce que dit leur hiérarchie, etc. Et puis, d'abord, quand on fait un rapport, ce qu'on fait à la fin, c'est qu'on convoque. D'abord, on a un entretien avec l'équipe de direction où on leur dit voilà ce qu'on va dire, etc. Pour corriger d'ailleurs des choses. Et ensuite, ils répondent. Là, la présentation du rapport, elle est nulle, parce que d'habitude, on fait une présentation en 3 colonnes, c'est-à-dire, voilà ce que dit l'inspection, voilà ce que répond le contrôlé, et voilà ce que l'inspection répond au contrôlé. Et donc, on lit les choses comme ça. Les 3 colonnes. Ça, c'est pour accéder aux réponses de l'IHU, c'est très compliqué, Et puis, c'est pas un vrai contradictoire. Et puis, à la fin, on se confronte à l'ensemble du personnel et on dit voilà ce qu'on va dire. Voilà. Je veux dire, et on se contente pas de recevoir dans un...
Ils l'ont pas fait, ça?
Non, ils l'ont pas fait. La présidente, d'ailleurs, dans sa réponse, dit que, elle a quasiment pas eu d'entretien avec eux. Yolande Obadia. Yolande Obadia qui est poursuivie par l'IGAS depuis très très longtemps. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est une médecin-inspecteur de très grande qualité. Et qui...
Donc en fait, il y a une espèce, c'est l'instruction à charge. Quoi.
C'est une instruction à charge et sur des riens. C'est-à-dire, ils n'ont pas signé telle convention, ils n'ont pas réactualisé telle chose, etc. L'essentiel des choses qui leur sont reprochées, factuelles, ne sont pas très graves. Hein. C'est des... Voilà. Et les choses qui leur sont reprochées et qui sont graves ne sont pas prouvées.
Ne sont pas prouvées. On reparle de tout cela avec les auditeurs de Sud Radio qui sont évidemment très intéressés par ce sujet après une toute petite pause. À tout de suite.
Et oui, on attend vos réactions aussi, hein, ce que vous en pensez. Est-ce que c'est Didier Raoult qui est atteint d'un syndrome de Faust ou bien est-ce qu'on lui fait une chasse aux sorcières, notamment à l'IGAS ? 0826 300 300, on attend vos appels. À tout de suite.
Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et dans tous mes états et dans tous les états de l'IHU Méditerranée Infection, de l'IGAS et d'Hélène Stroll, bien sûr. Alors, Hélène Stroll, justement, inspectrice de l'IGAS, je rappelle, aujourd'hui la retraite, mais pendant 30 ans, de l'intérieur, vous connaissez bien l'IGAS. Alors, Didier Raoult répondait absence de distance. Alors, il a répondu à l'égard des enquêteurs, absence de distance de la mission qui s'apparente plus à une mission commando qu'à une inspection au service de l'État français. Il estime que les inspecteurs n'ont pas de compétences scientifiques. Il les accuse d'écrire des contresens de réclamation extravagante. Voilà, etc., etc. Enfin, ce ne sont pas des fleurets mouchetés. Et le rapport dit enquête pour inconduite scientifique. Alors, quand tu dis, vous dites, vous l'avez dit vous-même, aux ordres, donc c'est vraiment une action, à votre avis, commando, par rapport à ce qui se passe vraiment. Et est-ce que les inspecteurs, parce qu'il dit quand même, c'est une accusation assez grave, il dit ils n'ont pas la compétence pour juger.
Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas la... compétences pour juger. Il y a une médecin biologiste, mais qui est médecin de l'administration, qui a été directrice d'ARS, de l'ARS Lorraine d'ailleurs, avant d'être nommée à l'IGAS, et deux anciens directeurs d'hôpital. Hein.
D'accord.
C'est ça l'inspection.
C'est ça les trois.
Ouais, c'est ça les trois.
Ce sont les trois, oui.
Alors, il y a deux manières de juger de la qualité de ce que fait, de ce qui se passe à l'IHU du point de vue scientifique.
Oui.
Soit on regarde effectivement les publications. Et ils en ont quand même beaucoup, c'est eux qui en ont le plus. Alors, l'inspection dit oui, mais ils ont beaucoup de publications dans des revues de 3e ou 4e rang, pas uniquement. Et Raoult dit, d'abord parce que l'infectiologie a été souvent classée en 3e et 4e rang avant le Covid, parce que c'était pas la cancérologie, la casa, premièrement. Et puis, deuxièmement, quand vous en avez beaucoup, beaucoup, vous ne pouvez pas avoir... toutes vos publications en premier, deuxième rang. Et donc, le pourcentage en troisième, quatrième rang est plus grand. Donc ça, déjà, c'est une lecture. Ces gens ne savent pas lire des statistiques, bon sang. Hein
et le deuxième point, vous dites ?
Et le deuxième point, c'est que, bien évidemment, ce ne sont pas, une inspection de l'IGAS n'est pas composée de scientifiques. Mais à ce moment-là, on ne se prononce pas, je dirais, sur le cœur du problème. Ouais. Moi, jamais je le ferai. Mais je regarde si, effectivement, méthodologiquement et du point de vue des résultats, ça fonctionne. Je veux dire, il faut quand même essayer de comprendre un peu. Par exemple, ils ont un débat parce qu'il y a des gens qui disent « Oui, Raoult, il oblige à, finalement, changer d'hypothèse en milieu d'expérience.
Bah, » pour...
Et oui. Raoult dit... Mais oui, c'est notre méthode. Alors, si on comprend un peu l'épistémologie, on n'a pas besoin d'être un grand scientifique. Il suffit de penser. Si on comprend l'épistémologie, on comprend tout à fait qu'il y a plusieurs sortes, types de recherche.
De chemin. En cours et de que, recherche, on peut changer
voilà,
de focale.
Et que c'est une... ce qui est premier à l'IHU, c'est l'observation. L'observation, et à partir de l'observation, on sort des hypothèses et éventuellement, si on continue à observer que l'hypothèse se révèle fausse, on change d'hypothèse. Alors qu'au fond, ce qu'on reproche à l'IHU, c'est de ne pas faire ce que font la plupart des laboratoires d'infectiologie, c'est-à-dire de l'étude randomisée avec les laboratoires pharmaceutiques. C'est ça le fond du débat. D'ailleurs, ils le disent à plusieurs fois. Ils disent ils font de la recherche biologique, mais ils font pas de la recherche thérapeutique. Ils font pas de la recherche thérapeutique pour valider l'utilisation de tel médicament plutôt que tel autre.
En fait, le fond du problème, c'est toute l'histoire des médicaments, de la médication précoce que préconisait à un moment donné, et puis les vaccins. Disons que ce que vous dites un peu, c'est qu'ils ont suivi un peu Véran et Buzyn.
Évident. D'abord, ils ont été nommés par le ministre et commandités par le ministre qui les a nommés. Ouais. Donc, quand même, je veux dire, après, vous savez, les gens ont une indépendance d'esprit et une censure dans leur tête. Hein. S'ils veulent, moi j'ai vu souvent des collègues qui avaient peur de déplaire au cabinet ministériel. Hein. Si vous dites que vous vous en foutez et si vous appartenez à un corps où on ne peut pas vous virer parce que vous avez déplu, alors c'est possible. Actuellement, ça c'est fini. Il faut savoir que le corps de l'IGAS a été supprimé, ça n'est plus un corps.
Ça y est, c'est supprimé.
C'est un service fonctionnel dans lequel on est nommé par le ministre avec une vague commission de sélection pour 5 ans, renouvelable 3 ans. Et donc
on dépend du ministre.
Pour la suite de sa carrière.
C'est ça.
Donc on n'a pas cette indépendance. Moi, j'étais pour que je l'avais écrit d'ailleurs dans le courrier du stratège au moment de la réforme. J'étais pour que mais je suis la seule, quand même. Hein, personne ne m'a suivi dans l'inspection. Ils s'en foutent. Pour que ce soit un corps d'inspection dans lequel on arrive relativement tardivement, à partir de, je sais pas, 45, 50 ans, après avoir été médecin, plein de professions, qu'on soit formé à faire de l'audit, parce que visiblement ces gens ne sont pas formés aux méthodes d'audit, c'est une méthode d'inspection, on s'y forme,
ça s'apprend.
Hein, et puis ensuite, qu'on n'ait rien à attendre du pouvoir, qu'on n'ait pas de poste à attendre. Voilà.
C'est ça, le fond. Parce que si, comme certains, d'ailleurs, magistrats, certains autres, si on dépend pour sa carrière de tel ou tel ministre, et évidemment du président de la République, il y a un côté biaisé là-dedans.
Il faudrait que le Parlement ait un corps d'inspection qui soit indépendant. C'est ça. Les gens se moquent toujours de moi parce que moi j'aime beaucoup le contrôle, j'ai beaucoup aimé l'inspection. C'est vraiment un métier que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Mais je trouve qu'il est important comme métier.
C'est un
métier important parce que
doit être un contre-pouvoir.
Oui, puis on est là pour défendre les usagers. Vous savez, une des premières émissions que j'ai écoutées de Raoult, il parlait du principe de Tom. Qu'est-ce que c'est le principe de Tom ? C'est un médecin qui soigne un petit garçon et puis il y a un choix et il dit à la mère lui dit qu'est-ce que vous allez choisir ? Et il dit si c'était Tom, c'est-à-dire mon fils à moi. Je ferais ça. Mais voilà. Et moi, j'ai toujours inspecté comme ça. Est-ce que j'y mettrais ma mère? Est-ce que j'y enverrais soigner mon époux? Est-ce que, etc., etc. C'est ça, une inspection.
Si c'était Tom, c'est joli. Ouais. On fera une émission avec si c'était Tom. Alors, nos auditeurs, je crois qu'ils nous attendent.
Absolument. Loïc nous appelle de Lourdes pour savoir, poser une question sur l'ordre des médecins. Bonjour, Loïc.
Bonjour, Loïc. Oui,
bonjour, André. Bonjour, Hélène.
Bonjour.
J'aimerais savoir, en fait, qui sont ces gens qui font partie de l'ordre des médecins? Quelle légitimité ont-ils, en fait, pour discréditer et poursuivre des médecins reconnus? N'y a-t-il aucune poursuite judiciaire contre eux? Parce que c'est clair qu'ils sont corrompus, qu'ils desservent la santé. Et c'est quand même ces gens-là qui décident de ce qui est juste ou pas, quoi. Mais quelle légitimité ont-ils, quoi?
Alors l'ordre des médecins, c'est pas l'IGAS. Hein. L'ordre des médecins, ce sont des médecins qui sont élus au niveau local puis au niveau national par leur père. Moi, dans ma jeunesse post-68arde, tous les médecins étaient qui voulaient supprimer l'ordre des médecins créé par Vichy. Mais en gros, c'est l'instance ordinale est là pour empêcher qu'il y ait des médecins qui fassent des choses totalement...
Des dérives, voilà.
Mais là, dans ce dont il est question, c'est l'Inspection Générale des Affaires Sociales, c'est-à-dire c'est un corps de fonctionnaires, hein, qui sont... ce sont des médecins, des énarques, des anciens directeurs du travail, des anciens directeurs des DAS, des ARS, etc.
Hein, c'est ça, c'est autre chose.
C'est autre chose.
Merci, Loïc.
Merci, Loïc. Chantal nous appelle de Bastia, est-ce que Raoult paye pour quelque chose qu'il aurait fait pendant la période du Covid ? Bonjour Chantal.
Oui, bonjour André, bonjour à votre invité. Je voudrais vraiment la remercier parce que moi j'ai été très longtemps déléguée syndicale, donc je travaillais dans un hôpital, hein, et donc j'ai eu affaire à l'IGAS. Et d'ailleurs c'était très drôle parce que quand il y a eu les élections pour dire que vraiment ce n'est que purement politique. Je ne me remets pas en cause les inspecteurs, comme disait la dame, qui sont des fonctionnaires et qui malheureusement maintenant en plus sont nommés par le ministre. Donc eh ben, ils ont peur pour leur place. Mais je peux vous dire que quand nous on les a vus débarquer plusieurs fois, et puis il n'y avait pas que l'IGAS, il y avait toutes les inspections générales de tous les ministères, quand les nationalistes sont arrivés au pouvoir à la collectivité de Corse, ils se sont rappelés que la Corse existait. Donc, c'était simplement pour dire que c'était purement politique. Donc, je voulais poser une question à votre invité. Voilà, pensez-vous, bon, vous aujourd'hui, vous êtes à la retraite. Pensez-vous qu'aujourd'hui, certains fonctionnaires, bon, vous avez plus ou moins répondu en disant que vous étiez la seule. Pensez-vous qu'à un moment donné, les inspecteurs de l'IGAS vont dire non mais c'est pas possible, parce que Raoult, on sait très bien que tout le monde, que l'État, le ministre Macron veut sa peau pour pouvoir faire une autorisation de mise sur le marché conditionnel. Il faut prouver qu'aucun traitement marche.
Non mais ça on est d'accord, mais la question.
Est-ce que vraiment vous pensez que vos collègues, je ne sais pas si vous avez encore des contacts avec eux, qu'est-ce qu'ils pensent de votre démarche? Et est-ce qu'eux l'entendent? Voilà.
D'accord.
Ah, je pense que mes collègues n'aiment pas du tout ma démarche. D'ailleurs, le premier article que j'avais écrit il y a 2 ans à propos de Raoult s'appelait « L'effet placebo est un effet ». Et je critiquais effectivement l'exclusivité de la méthode randomisée pour parler d'un traitement. Et j'avais reçu une lettre de la chef de l'IGAS disant qu'on pouvait me retirer mon honorariat. C'est pas très grave, hein, je mets à la retraite depuis. Toujours est-il que... Je dis, j'ai bien sûr galégé quand j'ai dit que j'étais la seule ou une des seules à considérer qu'il fallait écrire ce qu'on voyait et non pas ce qui faisait plaisir. C'est pas seulement que les gens ont peur, c'est que les gens sont dans la doxa. Moi, je suis persuadée que beaucoup de gens sont de bonne foi et pensent que, comme Raoult, d'abord a un espèce de look qui déplaît aux bien-pensants, et puis en plus, un certain nombre de gens d'extrême droite l'ont défendu. Donc forcément, en bon raisonnement forcément stalinien, Raoult est d'extrême droite. Dans le rapport, il y a une pièce où on dit « Ah, il y a eu une manifestation des patriotes sur les marches. »
Pour défendre Raoult.
Voilà.
Mais, donc il est...
Voilà. Et donc, je ne suis pas sûre que les gens soient comme peut-être aux ordres. En tout cas, ils ne réfléchissent pas de manière indépendante et libre.
Disons qu'ils sont un peu les jouets, les victimes de la fabrique du consentement.
Voilà, tout à fait.
Voilà.
On revient après une petite pause de pub avec encore plus d'auditeurs sur le sujet donc du rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales sur l'IHU de Marseille sous la direction de Raoult. À tout de suite.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et avec nos auditeurs, à la... Qui a-t-on ?
Chantal qui nous appelle de Narbonne. Bonjour Chantal.
Bonjour Chantal.
Bon,
Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Madame. Eh ben, je me permets de vous appeler parce que je suis absolument sous le charme de tout ce qu'a dit cette dame et je la trouve excessivement courageuse. C'est remarquable et je suis tout à fait d'accord par rapport à tout ça. Et je voulais vous dire aussi que Monsieur Raoult est pour moi un grand homme et que c'est bien regrettable qu'on ait dans les conseils médicaux à haut niveau des gens qui font, je pense, qui privilégient beaucoup plus leur relation que la médecine. C'est dommage. Et d'autre part, je voulais aussi vous faire part de mon mécontentement et de ma déception de vous avoir supprimé une demi-heure. Voilà. C'est un bien grand regret.
Merci.
Mais
merci.
Bon, c'est comme ça. Donc, je suis très admirative du courage de cette dame.
Eh bien, écoutez,
elle vous a écouté. Merci. Un peu les Français.
Bah, je pense qu'elle va les faire réfléchir.
Non, je risque rien. Hein, c'est pas moi qui risque quelque chose. Moi, je suis à la retraite. Personne ne prendra rien. Il faut pas exagérer. Hein. C'est juste le courage de pas penser comme forcément
déjà pas
le
mal,
plus grand nombre.
C'est déjà pas mal.
Oui, mais il y a des gens quand même. Moi, je pense à Vincent Pavant. Je pense à la femme de Louis Fouché, je pense à tous ces gens-là qui sont suspendus à demi-traitement, qui ont vu leur traitement du tout, ouais. qui ont vu aux soignants, évidemment, qui souvent, pas pour des raisons personnelles, mais pour des raisons, je dirais, politiques, au sens noble, ont refusé ce vaccin imposé. Ces gens-là risquaient quelque chose. Le docteur, le professeur Raoult, évidemment, aussi, il a été harcelé de manière... Moi, je l'ai, vous savez, au tout début de la pandémie, on a eu un échange, mon mari et moi, avec Jean-Pierre Luminet, qui est le grand astrophysicien, qui a modélisé les trous noirs déjà il y a 15 ans, etc., et qui habite Marseille, et qui nous a dit, nous, de toute façon, on n'a pas peur, on a Didier Raoult, qui est un très grand scientifique. Et Jean-Pierre Luminet fait partie de très grands scientifiques. Donc,
c'est
quand
un des découvreurs des trous noirs. Enfin,
voilà. Donc quand même, c'est pas...
Pas rien.
Voilà.
Alors, une autre auditrice, un autre auditeur.
Jean-Marc de Narbonne. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour Madame. Voilà. Je vous remercie pour tout ce que vous dites. Et l'acharnement qu'il est fait à l'encontre de M. Raoult est au-delà de la médiocrité, si vous voulez. Bien au-delà de la médiocrité. Moi, j'ai eu la chance de me faire soigner l'an dernier pendant la période Delta à l'IHU de Marseille. Donc, on est pris en charge, on passe un électrocardiogramme, on passe une prise de sang, on a les saturations d'oxygène, on a tout un tas de protocoles. Après, on est reçu par des docteurs ou par carrément le professeur Mignon, qui est le patron du service, qui vous pose des questions. Vous repartez avec une ordonnance. Et le lendemain, si vous avez des problèmes de coagulation, on vous appelle chez vous. Voilà, vous êtes vraiment pris en charge de A à Z. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Et j'ai la chance de connaître un peu personnellement le professeur Roux et d'avoir visité l'IHU. Donc l'IHU est un établissement qui est très très bien tenu, tout est propre, c'est un centre de recherche qui est fantastique. Et je pense que le seul problème de M. Raoult, c'est que justement, il est très bon, M. Raoult. Et M. Raoult, il vous soigne avec du plaquenil, je crois que ça m'avait coûté 5 ou 6 euros, si vous voulez. Et pendant la période Delta, tout le monde a été touché au niveau des poumons.
Ouais.
Et le seul qui n'a pas été touché au niveau des poumons, c'est moi, si vous voulez. Mm-hmm. Donc même cette semaine après, je suis allé au champion de France d'athlétisme et j'étais champion de France d'athlétisme.
Ah bon, si une semaine après?
Voilà, ouais. Cette semaine après, alors que pendant 2 semaines, j'étais quand même très très touché, très attaqué. Ouais. Si vous voulez, j'ai eu beaucoup de symptômes et je n'avais aucun problème pulmonaire. Quand les gens qui étaient autour de moi, bien plus jeunes que moi, avaient tous des problèmes pulmonaires, et quand ils appelaient le docteur leur parlait même pas de saturation d'oxygène, il leur disait restez chez vous. Prenez de Doliprane, et quand vous avez les ARS qui m'ont appelé, en plus c'était marrant quand ils m'ont appelé parce que j'étais sur la route de l'IHU, si vous voulez.
Ouais.
Il y a 3 heures de route, et de Narbonne à Marseille, comme vous le savez, monsieur Berkoff.
Ouais.
Donc je reçois un coup de fil, vous avez attrapé le Covid. Donc, tout un tas de questions. J'ai dit, non, mais moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai dit, je vais à l'IHU de Marseille. Bon, il y avait pas ce... Sur le questionnaire, ça y était pas, si vous voulez, l'IHU de Marseille.
Ah là là là, vous êtes un dangereux rebelle, mon cher Jean-Marc.
Voilà. Et alors, il me proposait de faire venir une infirmière chez moi. J'ai dit, mais pourquoi faire? Mais pour qu'on vous explique Il dit qu'on m'explique quoi ? Mais qu'on vous explique, si au bout de 7 ou 8 jours, vous êtes toujours malade, que vous ne vous sentez pas bien, vous appelez l'hôpital et vous, on viendra vous chercher où vous venez. Alors, je savais que ce n'était pas une blague, malheureusement. Ce
n'était pas, une blague.
Moi, je ne faisais que répondre exprès. Non, mais moi, je vous fais soigner, j'ai un traitement. Et là, il y avait chaque fois un blanc au téléphone, si vous voulez.
Joli témoignage, Jean-Marc. Merci, c'est intéressant. Voilà des dérives, hein, Hélène Stroll.
Oui, tout à fait, tout à fait. D'autant plus qu'il ne faut pas prendre de doliprane, mais plutôt de l'aspirine, quand même. Parce que le doliprane n'est pas anti-inflammatoire, on l'a trouvé ensuite. Mais
sur le fond, là, on arrive en fin d'émission.
Dans les établissements, comme l'IHU, dans tous les hôpitaux, il y a ce qui s'appelle une commission des usagers. Dans la commission des usagers, tous les usagers peuvent la saisir, se plaindre.
La commission des usagers est obligatoire.
Elle est obligatoire, elle existe. Et ensuite, toutes les plaintes sont enregistrées, etc. Sont instruites, on fait venir les gens, etc., etc. Je veux dire, la mission de l'IGAS n'en parle pas. Mais je veux dire, moi, quand je fais un contrôle d'un hôpital, je regarde s'il y a des plaintes des usagers. Enfin, c'est évident. Ouais. C'est quand même intéressant.
Il n'y a pas eu tellement de plaintes d'usagers.
Il
n'y
a pas
eu
tellement de plaintes d'usagers. Ouais. Donc, il n'y a pas eu de mort par l'hydroxychloroquine. Il n'y a pas énormément de plaintes d'usagers. Peut-être qu'il y en a. Il y avait ceux qui avaient trouvé que c'était un peu cher que ce soit facturé en hôpital de jour. Vous savez, il y a toujours des gens qui sont là. Voilà. Mais en général, là encore, on a des faits. On regarde les faits quand on fait de l'inspection. Regarde les preuves. On n'a pas le droit d'accuser les gens sans preuves.
Absolument. Merci. Ce sera non pas le mot de la fin, parce qu'on va continuer à parler de tout ça avec Hélène Stroll, avec d'autres. Et en tout cas, merci de vos éclaircissements. Et je crois merci aux auditeurs qui vraiment posent les bonnes questions.
Merci beaucoup Hélène Stroll. Je rappelle que vous êtes inspectrice générale des affaires sociales à la retraite et auteur d'une tribune que nos auditeurs peuvent retrouver dans le courrier du stratège sur le rapport rendu par l'IGAS sur l'IHU de Marseille sous la direction de Didier Raoult. Berkoff dans tous ses états revient demain pour un face-à-face sous le signe de la spiritualité, hein, André. On vous donne rendez-vous de 12h30 à 14h et tout de suite vous retrouvez Brigitte Lahaye qui reçoit Serge Tisseron, psychiatre, psychanalyste et auteur de nombreux ouvrages, dont Le déni ou la fabrique de l'aveuglement. À demain.